France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. Trump contre Biden, ça vous rappelle quelque chose? Je vous rassure, les informés n'ont pas sombré dans une totale nostalgie de 2020, mais il va sans doute falloir se faire à cette affiche plus que probable de la présidentielle américaine en novembre prochain. Ça passe quand même par le Super Tuesday. C'est aujourd'hui, primaire républicaine et démocrate dans 15 États. Ce sera l'unique sujet ce soir. Peu de suspense donc sur l'issue de ce super mardi. On va d'ailleurs essayer de comprendre pourquoi Trump aussi est toujours là, pourquoi Biden est toujours candidat à 81 ans, ce que cela dit de la société américaine, sans oublier bien sûr les enjeux internationaux de ce scrutin. Pour en débattre, beaucoup de beau monde autour de la table des informés ce soir. L'historien André Caspi, que je salue, grand spécialiste des États-Unis avec de nombreux ouvrages de référence, notamment vos chroniques américaines à l'Observatoire, publié en 2022. Dominique Simonet, écrivain et journaliste également spécialiste des États-Unis, co-auteur avec Nicole Bacharan de Les Grands Jours qui ont changé l'Amérique, c'est chez Perrin. Célia Belin, politologue à côté de vous, spécialiste de la politique étrangère, vous dirigez de la politique étrangère des États-Unis, bien sûr, vous dirigez le bureau parisien d'un think tank qui s'appelle ECFR, Conseil européen, si on le traduit, pour les relations internationales. Et puis Cole Stengler, vous êtes journaliste américain, correspondant en France pour de nombreux médias, The Nation, The Intercept, Jacobin aussi, New York Times, je crois. Et on va débattre donc tous ensemble jusqu'à 21h. Bonsoir et bienvenue à tous. Et je salue aussi aux États-Unis Sébastien Paour. Bonsoir à vous, Sébastien.
Bonsoir, Bérangère.
Correspondant de France Info aux États-Unis. Alors, ce Super Tuesday, sans suspense, hein, disons-le, est-ce que ça fait quand même la une et comment c'est couvert par les médias américains?
Oui, ils sont en direct, évidemment. C'est un grand rendez-vous de la primaire américaine. Tous les médias sont positionnés partout, de la Californie jusqu'au Maine. J'ai pas vu d'envoyés spéciaux en Alaska. Il y a aussi une primaire aujourd'hui, mais en tout cas, les grandes télés, les grands journaux sont évidemment en édition spéciale ou vont l'être à partir du milieu de l'après-midi, alors que les bureaux de vote fermeront en soirée. Oui, on couvre cette élection indéniablement. C'est un grand rendez-vous de la démocratie américaine, même si cette année, vous l'avez rappelé, le suspense qu'on a d'habitude n'est pas là. Hein, le sortant se représente. Alors, en général, le parti derrière trace, il n'y a pas de suspense. De l'autre côté parti républicain, il devrait y avoir plus de suspense cette année, mais comme vous l'avez rappelé, Trump écrase tout depuis le début de ses primaires mi-janvier.
Alors Sébastien, vous avez arpenté le pays, je ne sais pas combien de meetings vous avez couverts, vous savez vous ?
Non, je n'ai pas compté, mais beaucoup. Oui.
Surtout côté républicain, en particulier ceux de Donald Trump, j'ai envie de vous demander ce que vous retenez globalement.
Il y a clairement une base militante, c'est celle-là qu'on voit dans les meetings de Donald Trump. J'en étais dans l'Iowa, dans le New Hampshire, en Caroline du Sud. Et puis auparavant, à d'autres occasions, il y a une base militante qui se déplace au meeting de Donald Trump ou de ses proches d'ailleurs, parce que la famille Trump est mobilisée, en partie en tout cas. J'ai fait le meeting de Don Jr., Donald Trump Jr., l'un des fils de l'ancien président. Et donc les militants qui viennent dans ces réunions-là, ce sont des militants de base complètement fanatisés, j'allais dire. Ils viennent d'ailleurs assister à un show, à un one-man show, un monsieur qui vient sur scène, qui est un ancien président ou son fils, qui prend le micro immense en filtre pendant une demi-heure, parfois une heure et demie, parfois deux heures, c'est long, quand on a un compte-rendu à faire à la radio pour le lendemain. Et pendant une heure et demie ou une demi-heure, Trump ou Don Jr. Leur raconte tout et n'importe quoi, dans tous les sens, sans filtre, les prend à partie, comme s'il faisait un show humoristique. D'ailleurs, je me souviens que dans l'Iowa, où il faisait quand même plus de moins 30 degrés, au-delà des moins 30 degrés, mais quand je dis moins 30, c'était vraiment la température au thermomètre, même si c'était en Fahrenheit, et des gens attendaient dans le froid devant une petite salle au sud de Des Moines, notamment des jeunes gens, d'une jeune femme notamment, qui avait fait la comparaison lors de ce meeting avec un concert de Taylor Swift. Elle m'avait dit, là, j'ai Donald Trump qui vient à côté de chez moi, c'est gratuit, c'est un spectacle, qui ne viendrait pas à un concert de Taylor Swift, c'est gratuit. Donc, la comparaison est tout à fait juste. On vient à un spectacle où l'artiste, en l'occurrence, est un homme politique, va faire un numéro, littéralement un numéro, raconter des erreurs, des, des, des tas de grossièreté aussi. Raconter que l'élection de 2020 a été volée, raconter que Biden est le traité de tous les noms, traiter son adversaire qui a lui aussi de cervelle de moineau. Enfin bref, tout le monde va en prendre pour son compte. On va rigoler, on va être pris à partie et on vient donc au spectacle, au one-man show. Et cette base-là, très très fanatisée, très très trumpiste, est fidèle et elle votera Trump à tous les coups, à tout prix et continue de dire que 2020 a été volé.
Ouais, c'est intéressant et on va en débattre avec nos invités. Juste d'un mot, les meetings de Nikki Haley, c'est assez différent, on imagine.
Oui, c'est d'abord il y a beaucoup plus de cheveux gris, la foule est beaucoup plus âgée, plus diplômée aussi, plus modérée, nettement plus modérée même. Elle est aussi un peu moins enthousiaste parce que les sondages, les résultats de ses primaires, pour l'instant laissent Nikki Haley assez loin derrière Donald Trump et elle pourrait même abandonner dès demain. Et donc dans les meetings de Nikki Haley, oui, même si la presse étrangère est très malvenue dans ces meetings, globalement c'est beaucoup plus calme et on a espéré à minima pour certains qui sont un peu plus lucides qu'elle sera potentiellement là, soit pour un ticket si jamais Trump la choisissait comme vice-présidente, ce qui est très peu probable même, soit en tout cas marquer le coup et prendre date pour 2028.
Merci beaucoup Sébastien Paour, correspondant permanent de France Info aux États-Unis. On suivra évidemment avec vous sur l'antenne et sur toutes les antennes de Radio France les résultats de ce Super Tuesday et la suite de ce scrutin.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Ce soir de Dominique Simonet, de l'historien André Caspi, de la politologue Célia Belin et du journaliste Cole Stengler. J'ai envie de vous faire réagir tous sur ce qu'on a entendu. Sébastien Paour nous a beaucoup parlé du show, de cette politique qui se fait. Est-ce que ça vous semble emblématique d'une certaine façon de la façon dont la politique se fait aujourd'hui, Dominique Simonet?
Oui, en tout cas de la façon dont Trump fait de la politique, puisque effectivement on parle de fanatisme, mais il y a une partie des Américains qui sont supporters fanatiques de Trump. Ça fonctionne presque comme une secte. Notre correspondant le disait très très bien.
Ouais, il parle de gourous même. Enfin.
Voilà, c'est ça, et même de messie pour un certain nombre d'électeurs évangéliques. Il y a quelque chose qui relève de la foi. Donc quand on est à ce stade d'adhésion, c'est plus vraiment de la politique. Mais il faut dire que c'est le talent de Trump d'avoir réussi à créer ce ciment de soutien. Il y a à peu près 30% des électeurs républicains, dit-on, qui seraient dans ce soutien absolument féroce et fidèle.
30% des républicains.
Oui, enfin des électeurs.
De l'électorat républicain.
Des électeurs. Mais il faut dire aussi que après il y a autre chose, il y a tout ce qui relève des réseaux sociaux, de la manière dont les informations sont diffusées et Trump emploie des méthodes populistes un peu comme tellement d'autres maintenant dans le monde, hélas,
parler,
comme
oui.
Bolsonaro, etc. Et donc qui fait passer un certain nombre d'idées qui sont ou d'informations qui séduisent les plus sensibles, les plus crédules ou ceux qui sont un peu qui se sentent mal à l'aise. Moi, je reviens du Michigan et c'est vrai, je discutais avec quelqu'un qui va voter Trump, qui est quelqu'un de totalement respectable, qui me disait oui, c'est un voyou, mais on vit mieux avec lui, on est mieux avec lui, il nous comprend. Voilà.
Ça en dit long quand même. Cole Stengler, Dominique Simonet m'a repris quand j'ai dit c'est la façon de faire de la politique. Il me dit c'est la façon de faire la politique de Trump, mais c'est d'une certaine façon. Est-ce que c'est pour vous emblématique d'une façon de faire de la politique aujourd'hui, de politique spectacle qui prend évidemment le pas sur toute idéologie?
Je pense que Trump, il est connu pour ce genre de spectacle. C'est ce qui a marché en 2016. C'est ce qu'il a essayé de faire en 2020. Il réessaie de faire ce même spectacle. C'est vraiment un show. C'est pour ça qu'on va à des meetings de Trump. Après, aux États-Unis, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un pays très, très polarisé aussi. Et donc, on a à peu près un tiers de la population qui va s'abstenir, qui ne va pas voter, qui ne vote pas, qui ne s'intéresse pas à la politique. Après, on a une partie du pays qui est très démocrate. Ensuite, on a une partie du pays qui est républicaine. Et donc, malheureusement, on est dans un contexte où on a des clivages qui sont tellement forts qu'on aurait pu avoir un autre candidat républicain. Et je pense que sincèrement, si on regardait les sondages, on serait à peu près au même niveau. C'est-à-dire que Trump continue à plaire à une certaine base républicaine qui adore Trump, le personnage de Donald Trump. Mais en plus de ça, Trump, si on regarde les sondages, il fait un bon score parce que c'est le candidat républicain en face du candidat démocrate.
Ouais.
Et malheureusement, c'est pas plus compliqué que ça, à mon avis.
André Caspi, le sentiment qu'on a quand même, c'est qu'il fait du sur-Trump, quoi. Il fait plus que Trump d'il y a 4 ans et plus que Trump d'il y a 8 ans. Enfin,
je crois qu'il ne faut pas oublier que Trump a d'abord été un homme de spectacle et de la télévision. C'est-à-dire qu'au fond, c'est comme ça qu'il a acquis une grande partie de sa célébrité avant 2016. Et depuis 2020, évidemment, il ne cesse pas de taper sur l'adversaire avec tous les moyens du bord, avec tous les propos plus ou moins justifiés.
Et avec plus aucune retenue, quoi. C'est
non,
ça,
il n'y a aucune retenue, mais il fait le spectacle. Il sait faire le spectacle. Et si on compare le spectacle Trump avec le spectacle Biden, il faut reconnaître que le spectacle Trump est quand même nettement supérieur du point de vue du spectacle. Alors, je ne parle pas du contenu, mais je parle simplement du spectacle.
Et dire
Et quand on regarde le président Biden, ben on a quand même le sentiment inverse, c'est-à-dire que au fond, c'est un peu lent, c'est un peu hésitant, ça n'est pas très présidentiel à vérité dire. Et aucun des deux ne me semble correspondre à l'image que l'on peut se faire d'un président des États-Unis. Trump parce qu'il en fait
même
trop,
Biden.
Et Biden parce qu'il n'est pas en mesure d'en faire suffisamment.
Ben, ça veut dire qu'on ne peut pas gagner, Célia Belin, cette élection si on n'en fait pas assez, cette élection américaine aujourd'hui.
Non, il n'y a que Trump qui est capable d'en faire trop comme ça, à la Trump, comme l'a rappelé André Caspi. Donald Trump veut constamment mettre en scène sa propre célébrité. Et d'ailleurs, il utilise certains des mots-clés qui l'ont fait connaître dans son émission, qui a eu 14 saisons, je crois, qui s'appelait The Apprentice, l'apprenti, où il jouait son propre rôle d'un businessman qui prenait un apprenti. Mmh. Et puis, quand ils étaient trop nuls, you're fired, vous êtes viré. Ouais. Et il a dit ça à propos de Joe Biden l'autre jour dans son meeting. Je dirais à Joe, tu es viré. Et donc, il constamment il joue sur le fil, il rappelle aux Américains, vous me connaissez, c'est familier, c'est la télévision, c'était chez vous, etc. Donc, il y a cette grande proximité. Mais il y a un deuxième élément qui m'a frappé en pensant à ce meeting de Donald Trump qui est entouré finalement uniquement de sa famille. C'est que Donald Trump, en dehors de son clan, donc très rapproché, son fils, et encore pas les deux, hein, surtout Don Jr., éventuellement
très présent là dans les meetings.
Très présent dans les meetings, ces belles filles qui ont des longs cheveux et sur des hauts talons. En dehors de ça, en dehors de ce clan, il y a personne autour de Donald Trump. Le Parti républicain et Donald Trump, c'est Donald Trump tout seul. Donc il y a plein de gens qui essaient de le conseiller, il y a plein de gens qui essaient de devenir son candidat à la vice-présidence, il y a plein de gens qui se mettent un peu qui prêtent allégeance au futur chef Donald Trump. Mais en revanche, c'est le Trump Show tout seul. En face, on a Joe Biden. C'est pas vraiment le grand spectacle. Hein, je suis tout à fait d'accord avec André Caspi. En revanche, l'image de Biden qui est arrivée en 2020, c'est l'image de la coalition. C'est l'image de la diversité. Il a Kamala Harris, son alter ego, femme, diversité noire.
On en parlait, mais qui a pas forcément.
Non, ça marche pas.
Crevé l'écran au bout de 4 ans.
Toute cette coalition crève pas l'écran. Ouais. Hein, c'est pas le grand spectacle, mais on a vu qu'il a fait monter. Enfin, qu'il a avec lui une palanquée de démocrates. Il n'est pas l'homme seul comme l'est Donald Trump. Tout passe par Trump, le Trumpisme. Le Parti républicain n'a plus d'idées. Le Parti républicain se confond maintenant avec Donald Trump. De l'autre côté, on a Biden qui tient une large coalition avec toutes ses sensibilités différentes. En ce moment, elle est plutôt en mauvaise passe, cette coalition. Ça, c'est vrai. Et c'est vraiment pas le bon moment pour Biden. Mais simplement, ce sont deux images de l'Amérique assez antinomiques qui sont proposées.
Ouais, alors dans les prises de parole, et on parlait du show, mais jusque dans... on va écouter la réaction qu'il a eue hier à la décision de la Cour suprême qui rouvre la voie, finalement, à la voie judiciaire, en tout cas pour l'instant, à une candidature de Donald Trump. Il y a une espèce de dérision, même dans le caractère très formel de tous ces drapeaux américain dont il est entouré. Regardez et écoutez.
Les juges de la Cour suprême ont travaillé longtemps. Ils ont travaillé dur et franchement, ils ont travaillé très rapidement sur quelque chose dont on parlera dans 100 ans et dans 200 ans et qui est extrêmement important. Vous ne pouvez pas éliminer quelqu'un de la course simplement pour complaire à un adversaire.
Voilà, donc éliminer quelqu'un de la cour, évidemment, on rappelle les 9 juges, dont 6 sont acquis à la cause trumpiste, 3 qu'il a nommé lui-même, Dominique Simonet. C'est une surprise, ça, de cette issue judiciaire d'hier.
Non, vous savez, il y a un certain nombre de commentateurs qui diraient les juges sont impartiaux, la Cour suprême est au-dessus de toute considération partisane. On peut se poser la question. Là, il y a eu 2 décisions, en fait. Il y a 2 décisions majeures qui jouent un rôle très important pour la campagne. La première, c'est celle d'hier qui déboute la Cour suprême du Colorado, qui voulait interdire les bulletins de Trump au nom d'un amendement, le 14e amendement, section 3, qui dit que quelqu'un qui est coupable de sédition ne peut pas briguer un emploi fédéral.
Ça, c'est pour tout ce qui s'était passé, l'assaut du Capitole.
Voilà. Donc la Cour suprême a dit non. Elle s'est pas prononcée sur le fond. Elle a dit que ce ne sont pas aux États de se prononcer. Donc les bulletins de Trump doivent être dans toutes les primaires. Ça, c'était pour les primaires. Et il y a une deuxième décision beaucoup plus importante qu'elle a prise. C'est de dire, nous allons nous saisir de la question de l'immunité présidentielle. Mmh. Nous allons nous saisir et nous en parlerons au mois d'avril. Et puis, nous aurons des auditions au mois d'avril. Et le procès, enfin, les procès, notre décision pourrait intervenir au mois de juin. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tous les procès en cours, enfin, pas tous, mais il y a quatre procès au pénal, au moins 3 de ces procès sont repoussés en attendant cette décision.
Et d'une certaine manière. Qui peut intervenir quand?
Il devait intervenir certains en mars, d'autres au mois de mai. Et ça veut dire qu'en fait, là, ils vont attendre cette décision de la Cour suprême pour savoir si les délits ou les crimes qu'ont pu commettre le président au cours de son exercice sont sujets ou pas à une immunité présidentielle. Donc ça veut dire que, d'une certaine manière, les procès qui s'accumulaient devant Trump et qui pouvaient lui créer un problème ne disparaissent pas, mais vont être repoussés, et certainement après l'élection.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On parle de ce Super Tuesday, de cette probable affiche Trump-Biden pour la présidentielle américaine de novembre, avec Dominique Simonet, l'écrivain journaliste, spécialiste des États-Unis, André Caspi, l'historien, Célia Belin, la politologue, et le journaliste américain indépendant Cole Stangeler. Juste pour clore sur cet aspect judiciaire, vous êtes tous d'accord sur le fait qu'il n'y aura probablement pas, ou qu'il n'y aura pas, disons-le, d'obstacles judiciaires d'ici novembre pour Donald Trump? Ça n'a pas l'air si clair.
C'est dur à prévoir ce que vont faire les différents tribunaux, parce qu'il y a tellement de procès différents, tellement de juges différents, donc c'est dur à prévoir, mais on dirait.
Mais la décision là de la Cour suprême, tous les aléas et ce que expliquait très bien Dominique Simonet, fait que
c'est une histoire de temporalité. On est comme l'a rappelé Dominique Simonet, là la décision de la Cour suprême de n'entendre qu'en avril et probablement de rendre sa décision conjointe a repoussé l'ensemble des procès. Certains procès, celui de Géorgie, avaient déjà du plomb dans l'aile et prenait déjà un an de plus. Et donc, tout ça fait que le temps de la justice, c'est pas le temps politique, que les décisions seront peut-être prises au cours de l'année prochaine. Les décisions du procureur fédéral, si Donald Trump est élu, il va s'en débarrasser, donc ces procès n'existeront pas. Et les 2 autres, il va faire appel, ça va continuer. En tout cas, la probabilité qu'il soit condamné l'élection, maintenant, elle est très faible, je crois.
Bon, ce Super Tuesday, André Caspi, pour vous, il y a un quelconque suspense? Il a quel intérêt? 15 États sont concernés.
Oui.
Donald Trump a déjà une avance confortable. Il lui faut recueillir de nombreux délégués sur ses votes de ces prochaines heures. C'est en cours là. Mais est-ce qu'il y a un quelconque suspense sur l'issue
Il n'y a pas de suspense en ce qui concerne le choix des candidats des 2 grands partis. Mais là où il y a sans doute un élément que l'on sous-estime, c'est l'activité des partisans de Trump. Et les partisans de Trump, actuellement, sont en train de vérifier les listes électorales. C'est-à-dire, au fond, d'éliminer le plus possible ceux qui seraient susceptibles de voter pour Biden ou de voter pour les démocrates. Mais d'un autre côté, ce qu'on oublie, parce qu'on focalise le débat sur la bataille entre Trump et Biden, mais il y a toute une série d'élections qui ont lieu en même temps. C'est-à-dire que le 5 novembre, les Américains n'élisent pas que le président. Ils vont élire 435 représentants, ils vont élire 34 sénateurs, ils vont élire des personnalités locales. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un grand changement. Et tous les deux ans, cela se produit aux États-Unis. C'est ça qui est très important. Et c'est important également de savoir comment chacun des États organise les élections. Alors, on parle de Trump, on parle de Biden parce que c'est spectaculaire. Mais dans la réalité des faits, c'est autrement plus compliqué que ce que l'on est en train de dire. Parce que, je le répète, les élections sont faites à partir de toute une série de dispositions qui varient d'un État à l'autre. On ne vote pas en Oregon comme on vote à New York. Mm-hmm. On ne vote pas dans le Michigan comme on vote dans l'Alabama. C'est-à-dire qu'au fond, tout cela contribue à créer la diversité de l'électorat américain et en même temps, cela permet de montrer la profonde division qui existe aux États-Unis entre deux Amériques. Je ne dis pas que c'est la guerre de sécession, hein, mais en tout état de cause, ça veut dire qu'on est dans une situation où les États-Unis ont cessé d'être unis. Et c'est cela qui est dangereux, et c'est cela qui va se manifester dans les différentes consultations qui auront lieu en novembre.
Kolsinger, vous partagez, on est vraiment sur deux Amériques qui ne se comprennent plus, ne se parlent plus, ne s'entendent plus.
Je pense qu'il y a un niveau de polarisation qui est très 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 élevé, presque du jamais vu depuis peut-être depuis la guerre de sécession, peut-être depuis les années 70. Mais je voulais dire qu'il y a aussi un autre enjeu du côté démocrate, même si on sait très bien, en parlant de ce Super Tuesday des primaires, on sait très bien que Biden va gagner les primaires, et là, il n'y aura pas de surprise. Par contre, ce serait intéressant de voir le nombre de votes blancs, entre guillemets, donc de votes blancs côté démocrate. On l'a vu la semaine dernière dans l'État du Michigan, donc un État absolument essentiel pour Biden s'il veut gagner la présidence, enfin s'il veut maintenir la présidence. On a vu qu'il y avait presque 100 000, enfin plus de 100 000 électeurs démocrates qui sont allés aux urnes et qui ont préféré voter blanc au lieu de voter pour Biden, justement pour protester contre sa politique étrangère en Israël et à Gaza.
Parce qu'il y a une minorité musulmane.
Le Michigan aussi, donc en plus d'être un État, un swing state, un État clé, c'est l'État où il y a le plus d'électeurs arabo-américains. Énorme population issue de l'immigration, comme on dirait en France, dans la banlieue de Détroit. Ces électeurs-là sont très très en colère contre la politique de Biden en Israël et à Gaza. Et les électeurs, de manière générale, si on regarde les sondages, les jeunes, donc absolument essentiels encore une fois pour Biden, s'il veut gagner, maintenir la présidence, les jeunes sont de plus en plus en colère, en tout cas pas d'accord avec la politique de Biden.
Qui mène actuellement, oui.
Et donc, il faudrait voir dans ces primaires... combien de votes blancs on va avoir dans un certain nombre d'États, notamment le Minnesota, parmi d'autres.
Mais... le Michigan, Dominique Simonet, vous me disiez que vous y étiez assez récemment. C'est 100 000 votes blancs, c'est quand même frappant.
Non, mais il n'y a pas de vote blanc.
Ils ont voté uncommitted. C'est l'équivalent, je fais une traduction française.
Vous avez raison de le préciser. Oui, non,
ils ont décidé de ne pas voter pour Biden.
Comment vous les appelleriez
Pour moi, c'est
abstention, voilà.
Oui, mais ils sont... Non, ce n'est pas des abstentionnistes, ils sont allés aux urnes pour...
Non, pas ce ne sont pas des abstentions, oui, c'est comptabilisé. Ça. Donc c'est un vote de c'est une manière de protester, en fait.
Et sans engagement.
Et il faut voilà. C'est ça.
Uncommitted.
Mais il faut se souvenir que le vote l'État a basculé à 10 000 voix en 2016.
Ça donne d'autant plus de force.
À 10 000 voix en 2016 et à 150 000 voix en 2020. Donc 100 000 voix, c'est très important. Et c'est un État clé qui fait que...
Et on peut retrouver ça dans d'autres États ?
Oui. Oui, bien sûr.
Lié au ras-le-bol que vous décriviez.
Notamment les États de cette région, c'était le Wisconsin, la Pennsylvanie.
Vous avez des États dans l'Ouest qui sont également des États plus ou moins... non décidé, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire que c'est le cas, par exemple, de l'Arizona, c'est le cas éventuellement d'États comme le Wyoming. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des États qui ne donnent pas beaucoup de grands électeurs, mais...
La Géorgie, quand même.
Et n'oubliez pas, par exemple, que l'un des procès qui est mené contre Donald Trump, c'est précisément parce que Trump avait appelé en Géorgie pour obtenir 11 000 voix de plus. Et grâce à ces 11 000 voix de plus, cela permettait en somme à Trump d'être élu président des États-Unis. Donc c'est extrêmement serré.
Ouais.